a des albums légendaires et des musiciens exceptionnels qui résistent. Ce sont des œuvres et des artistes dont la valeur n'est pas une évidence. Alors, on en entend parler, souvent à grands coups de superlatifs, et un jour, gonflé de curiosité, on souhaite les découvrir avec des oreilles avides et bienveillantes. Pourtant, la première écoute nous laisse au mieux indifférent, parfois circonspect, elle peut même susciter le rejet. J'en ai déjà parlé lors d'un épisode précédent, à l'adolescence, il m'a fallu lourdement insister sur les premiers albums de Led Zeppelin avant que le déclic arrive et fasse de ce groupe l'un de mes préférés. Il en a été de même pour beaucoup d'autres par la suite. Mais pour certains, comme Magma ou Bartok par exemple, ou bien avec certains styles musicaux comme le free jazz, je ne suis pas encore parvenu à passer ce cap. Question de temps et d'insistance, je l'espère. L'artiste du jour m'a été présenté par mon pote du jour il y a une quinzaine d'années. À l'époque, j'ai écouté, poliment, et puis je suis vite parti sur autre chose. Mais quand j'ai proposé à cet ami mystère de participer à mon podcast, j'ai secrètement souhaité qu'il revienne à la charge avec ce musicien pour tordre le cou à cette première impression fade. Et oui, je suis comme ça, j'adore tordre le cou aux mauvaises pensées de tout poil. Résultat, double coup dans le mille, j'ai personnellement adoré redécouvrir cette musique, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bienvenue dans Des Potes et des Albums, où je reçois aujourd'hui mon pote Julien et Lolami.
Salut Eric.
Alors Julien, on est potes depuis 23 ans, si j'ai bien compté, depuis qu'Olivier, notre ami commun que l'on salue, nous a présenté pendant études à Toulouse. Salut Olivier.
Coucou Olivier.
Alors on enregistre, juste pour préciser, on enregistre cet épisode à distance parce que entre Reims et la région de Quimper, il y a une petite trotte, donc ouais. C'était plus pratique comme ça. S'il y a un petit décalage de son, ça sera pour ça, mais les auditeurs ne m'en voudront pas, je suis sûr. Alors Julien, je suis ravi que tu aies accepté de participer à ce programme car notre potitude, si je puis inventer ce mot, repose beaucoup sur la musique. Hein. Tu es toi-même très mélomane et musicien, nous y reviendrons. Et j'ai eu le plaisir de jouer avec toi pendant quelques années, au début des années 2000. Nous avons ambiancé ensemble quelques bars à Reims.
Ah oui, la grande
époque.
Et ça
m'a personnellement forgé. Ouais, la grande époque, ouais. Et ça a été pour moi que de très bons souvenirs.
Oui, bah pour moi pareil. Hein.
Alors je te laisse tout de suite nous annoncer le titre de l'album que tu as choisi aujourd'hui.
Oui, alors c'est Figure 8 de Elliot Smith.
Figure 8, Elliot Smith. Est-ce que, avant d'écouter un premier extrait, ça a été pour toi un choix évident ou est-ce que tu avais... T'avais un top 5, top 10, un top 3000 pour choisir?
Ouais, quand tu m'as demandé, j'avoue que j'ai fait une petite liste en regardant dans ma discothèque. Et ouais, il y a peut-être 10, 15 albums qui sont sortis de 15 artistes différents.
Ouais.
Et puis, ouais, je t'en ai proposé 3 ou 4, je sais plus.
Ouais, c'est voilà, ça. Ouais, ouais.
Dont celui-ci, ouais. Parce que ouais, il a marqué un peu un tournant en fait dans ma façon de, enfin dans les styles musicaux que j'écoutais. Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou
non. On va, je pense qu'on va le redévelopper après. Alors, je t'ai demandé une petite sélection de tes titres préférés. Tu m'en as proposé 7 et puis bon, ça va nous servir de fil conducteur là pour l'entretien et puis on va développer tout ça juste après. Okay. On va écouter un premier extrait pour se mettre dans l'ambiance et puis après ça sera parti. Alors on va écouter la chanson qui ouvre l'album justement qui s'appelle Son of Sam. Ça, c'est Son of Sam, comme je le disais, la chanson qui ouvre l'album Figure 8 d'Elliot Smith. Alors, avant de parler de la chanson elle-même, j'aimerais bien qu'on présente un petit peu ce musicien, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu en France. Qu'est-ce que tu voudrais en dire?
Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas très connu, mais de ce que je comprends au fur et à mesure des années, c'est qu'il a une influence assez dingue sur toute une planète musicale. Alors, moi, je me suis rendu compte après qu'il avait été très exposé, après l'avoir découvert moi-même, qu'il avait été très exposé à la fin des années 90, notamment aux Oscars, en 98, je crois, parce qu'il avait composé la chanson de fin du film Will Hunting avec Robin Williams et aussi, Matt Damon. Et donc, il avait joué cette chanson aux Oscars et il avait vendu plein de disques pour cette chanson. Et j'avoue que j'étais complètement passé à côté. J'avais vu le film, mais la chanson m'avait pas plus marqué que ça. Et voilà. Donc, ce Elliott Smith, il vient du punk, hein, il me semble, de ce que j'ai vu.
Ouais, c'est ça. Il est. Ouais, c'est un petit peu la même génération que Kurt Cobain.
Oui, voilà. Donc,
même,
il vient.
Même genre d'enfance, même genre de. La génération X, quoi, ce qu'on appelait ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, après le décès de Kurt Cobain, il a commencé à percer, je crois, et à pondre quelques albums. Et vraiment dans une veine. Alors, je suis nul en genres musicaux, franchement. Je sais jamais classer les trucs, mais ça doit être, je sais pas, folk rock, pop, acoustique, punk. Je sais pas.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était assez acoustique et assez underground, quoi. C'était des mélodies pas forcément faciles, des trucs pas toujours très bien enregistrés, mais quelque part c'était un peu voulu, quoi.
Voilà, c'est ça. Un peu roots, quoi. Ouais. Et puis, ouais, donc des albums assez, la diffusion assez confidentielle au départ, et puis j'ai l'impression qu'il y a eu de plus en plus de monde qui s'est intéressé à sa musique. Des musiciens et d'autres, pas des musiciens forcément. Et voilà.
Ouais, non, c'est ça. C'est après, il a eu donc ses premiers albums comme ça, et puis à partir de 98, il a un album qui s'appelle XO, puis Figure 8. Donc ces deux derniers de son vivant, il y en a eu un posthume après, qui marque un peu un tournant musical où là ce coup-ci c'est un peu mieux, un peu mieux produit, avec plus d'arrangements. Ouais. Donc ça, il y a une première partie, on va dire underground, et une partie un peu plus mainstream. Alors c'est, je vais pas le dire dans un sens péjoratif, mais quelque chose de qui se veut d'une plus grande diffusion peut-être.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Et puis après, ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que c'était quand même quelqu'un de très instable émotionnellement. Il a commencé à toucher tout ce qui est drogue, alcool à l'âge de 14 ans quand il est parti vivre. Avec son père à Portland, très petit. Alors ses parents divorcés assez jeune, je crois, et puis sa mère a été remariée à un homme qui était très religieux, très violent, donc il a été fortement marqué par bien qu'il était, j'ai lu ça, c'était assez dingue, il était athée, et il a eu toute sa vie la peur de l'enfer, quoi, malgré son rejet de la religion, donc il était bourré de démons comme ça, et donc après, dépression, alcool, drogue, et voilà, il a eu une fin tragique. On ne sait toujours pas s'il a mis fin à ses jours ou s'il a été assassiné par sa petite amie, d'ailleurs. Voilà.
Oui, c'est assez flou. Hein. Sa mort en 2003, je crois. Je crois que l'enquête est toujours en cours, d'ailleurs. Je ne sais pas si elle est toujours...
C'est ce que j'ai lu,
Ouais, donc c'est vrai, une fin vraiment bizarre, ouais.
Alors après, bon, comme tu l'as dit, on arrive à la fin du grunge. Hein, c'est Kurt Cobain meurt en 94, lui, il commence sa carrière solo. Dans le contexte musical plus global, en Angleterre, on vient de passer le pic de la Britpop. Voilà, c'est pour se souvenir un petit peu de tout ça. Donc, on arrive aux années fin des années 90 pour Elliott Smith. Toi, tu le découvres quand, Elliott Smith ?
Eh ben, je le découvre avec cet album, donc en 2000.
D'accord.
Il est sorti. Je le découvre grâce à ma grande sœur, en fait, indirectement. Donc, merci à elle. C'est à Noël 99, elle m'offre un abonnement à un magazine qui, a priori, ne m'intéressait pas du tout, qui était Les Inrecuptibles. Et Les Inrecuptibles, à l'époque, mettaient tous les mois un CD de compil des meilleurs trucs qui sortaient dans l'actualité. Et donc, premier CD, janvier 2000.
J'étais sûr que c'était ça.
Ah ouais?
Te connaissant un peu, j'étais sûr que c'était
Les Inrecs. Évidemment. Et premier CD donc fourni par Les Inrecs en janvier 2000, au début de mon abonnement, il y avait sept chansons, enfin une chanson d'Elliott Smith qui est dans l'album Happiness. Et donc à l'époque, moi j'écoutais pas du tout ce genre de truc. Moi j'étais très pop, mainstream, variété française et tout ça. Et j'avoue que cet abonnement aux Inrecs m'a quand même vachement ouvert à un monde musical totalement différent. Donc merci Christelle.
Quand tu écoutes l'album, tu te souviens de tes premières impressions ? Donc t'avais quoi ? T'avais la vingtaine à peu près. Hein,
ouais, c'est ça, 20 ans. Mes premières impressions, tout de suite j'ai le morceau qu'on vient d'entendre par exemple, donc qui ouvre l'album, j'ai tout de suite accroché ce mélange de... Il y a une sorte de piano bass-tringue avec des guitares un peu crades et puis surtout les harmonies, quoi. Moi, ce que j'adore dans Elliott Smith, c'est les accords en dessous, les harmonies, les mélodies complètement délirantes, enfin pas délirantes, mais hyper recherché. Et
ouais, et qu'on n'entend pas forcément dans ouais. quelque chose de plus mainstream. Ouais.
Bah ouais, tout à fait. Et la plupart des chansons mainstream, il y a 4-5 accords maxi. Et là, ça change tout ouais. le temps. Il y a souvent pas vraiment de refrain dans les chansons d'Elliott Smith. La structure est un peu bizarre, mais c'est vraiment un univers qui m'a tout de suite accroché, quoi.
Ouais, c'est on va en reparler tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est, je pense qu'il a, c'est quelqu'un qui a un sens de la mélodie qui est très développé. Il a vraiment un don pour ça. Ouais.
Ouais, ah oui, carrément.
Ouais, il a peut-être même beaucoup travaillé pour ça d'ailleurs.
Ouais.
Ok. Donc comme tu l'as dit, ouais, Son of Sam, c'est vrai que c'est la chanson qui ouvre l'album. Elle est d'emblée très marquante. On est comme tout de suite happé, je trouve, dès qu'on entend ouais. cette première chanson. On va passer à la suite. Alors tu m'as, dans ton mail là quand on a préparé l'épisode, tu m'as dit bon dans tes choix de chansons, il y a beaucoup de choses calmes, acoustiques, balades acoustiques.
Ouais.
Et notamment ce qui est intéressant, c'est les trois extraits suivants qui sont un petit peu dans cette veine-là, avec toutefois une progression, une complexité qui arrive petit à petit. Alors on va commencer par Somebody That I Used To Know, qui n'a rien à voir avec la chanson de Gauthier.
Ah c'est vrai, j'avais jamais tilté que ça avait le même titre. Ah oui, c'est vrai. That tender feelings that you made hard, but it's your heart, not mine, that's scarred. So when I go home, I'll be happy to go. You're just somebody that I used to know. You don't need my help anymore. It's all now to you, there ain't no before. Now that you're big enough to run your own show, you're just somebody that I used to know. Somebody That I Used To Know d'Elliott Smith. Alors pourquoi cette chanson ? Eh bah, ben, alors moi je suis très fan de ballades acoustiques en général, dans tous les genres.
Ouais.
Voilà. Et celle-ci, ouais, dès que j'ai entendu les guitares, ou la guitare, je sais pas s'il y en a une double ou je sais pas trop comment c'est foutu, mais le jeu de guitare, la mélodie, tout de suite j'ai pensé à Simon & Garfunkel. Je sais pas si ça t'a fait le
même oui,
effet.
Oui. Mais non, mais maintenant que tu, mais c'est évident plus.
Enfin, moi, oui, tout de suite, c'est Simon Garfunkel qui est pour moi une référence dans les harmonies, la mélodie, l'acoustique et tout ça. Et ça m'a tout de suite fait penser à la façon que Paul Simon avait de composer ses chansons avec des changements d'harmonie rapides comme ça. Et puis en plus, elle est assez vive en fait comme chanson, même si elle reste acoustique.
Oui, oui.
Le rythme est assez rapide. Et donc voilà. Et surtout, et Elliott Smith, et on l'entend encore plus dans les ballades acoustiques comme ça, il y a une façon d'enregistrer la voix aussi. Alors moi, je ne connais pas grand-chose en enregistrement, mais je ne sais pas, il doit doubler la voix ou... Mais ça
c'est exactement ça, ouais.
Ouais.
Alors apparemment, c'est tout con, il a un complexe, enfin il avait un complexe sur la puissance de sa voix. Et donc pour être sûr, peut-être pour se rassurer, il doublait toutes ses prises de voix en fait.
Ah oui, d'accord.
Simplement, c'est exactement ce que tu dis. Donc, éventuellement, en mettant un petit décalage, c'est ce que faisait, dans un but acoustique, parfois John Lennon, les Beatles. Alors, comme il était un très grand fan des Beatles, je pense qu'on y reviendra forcément tout à l'heure. Peut-être qu'il a entendu parler de ça, mais en tout cas, ça donne une signature évidente. Ouais.
Ah oui, c'est sûr. Ah oui, donc il était complexé par la puissance de sa voix. C'est sûr qu'il n'a pas une voix puissante, on l'entend tout de suite, mais
non,
c'est justement ça, moi, je trouve, qui donne de l'émotion, en fait, dans tous ces morceaux.
Ah oui.
Une sorte de fragilité qu'on entend dans la voix et qui prouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir une voix à la Céline Dion, même si je la respecte tout à fait, pour transmettre de l'émotion, quoi. Clairement.
Effectivement, il a une très belle voix, très. Alors, je trouve que c'est un mélange de fragilité et de maîtrise à la fois, qui donne un aspect vraiment, vraiment singulier. Et puis, ouais, comme tu dis, son jeu de guitare, il a un picking qui est vraiment très, très intéressant, hein, le fait de détacher les cordes comme ça, très rapide.
Ah, oui.
Et je pense que c'était un bon guitariste, ouais. On peut, peut-être pas forcément virtuose, mais au moins un très bon guitariste accompagnateur.
Ouais.
Toi, la virtuosité, on en parlait dans d'autres épisodes, juste pour savoir, ça, c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu recherches ou pas forcément ?
Pas spécialement, non. J'avoue que c'est pas un truc qui m'attire plus que ça quand j'écoute ou quand je vois un concert. La virtuosité, parce que parfois...
Tu vas plus à l'émotion, toi ?
Oui, carrément. Parfois, la virtuosité peut être vraiment, je trouve pas le mot, mais pas quelqu'un qui s'y appête, mais
envahissante.
ouais, envahissante un peu, et c'est pas ce qui m'apporte de l'émotion, quoi. Quand j'écoute
la
musique, la virtuosité. Ouais. Alors ça peut, hein, évidemment, quand il y a en plus l'émotion et qu'en plus c'est virtuose, évidemment, c'est génial. Mais ouais, c'est pas ce que je recherche en premier, non.
D'accord. Ouais, donc là tu tombes très bien avec Elliot Smith, clairement. Alors c'est vrai que là sur ce genre de chanson, il est peut-être dans ce qu'il faisait un peu plus dans la première partie de sa carrière. Tu connais aussi bien les premiers albums que les derniers ou tu t'es focalisé sur les derniers plutôt?
Non, donc j'ai commencé par ce dernier album et du coup, comme j'adorais, je me suis intéressé un peu à ceux d'avant, mais je crois que je les ai même pas tous écoutés. Je dois en avoir deux ou trois. Et à chaque fois, dans les autres albums, il y a vraiment des chansons que j'adore et d'autres qui me touchent beaucoup moins dans les albums précédents.
D'accord. Eh ben, on va passer à la deuxième ballade de ce que tu as proposé, la chanson qui s'appelle Everything Reminds Me of Her. I never really had a problem because of leaving. But everything reminds me of her this evening. So if I seem a little out of it, sorry. Why should I lie? Everything reminds me of her. Alors c'était Everything Reminds Me of Her d'Elliot Smith. On a une autre ballade acoustique, peut-être ici avec une mélodie un peu plus complexe ou peut-être moins évidente, je sais pas ce que tu en penses.
Ouais, je sais pas si c'est la mélodie de la voix qui est plus complexe ou plus le jeu de guitare avec des changements de rythme réguliers.
Des
changements de mesure et qui fait que, enfin, je trouve cette balade vraiment déchirante, quoi. En plus avec l'effet voix donc qu'il y a toujours, c'est vraiment on l'imagine seul dans sa chambre à gratouiller, à pleurer son amour perdu, quoi. Enfin, il se rappelle tout le temps d'elle, comme dit le titre. Et ces changements de rythme à la guitare aussi, c'est comme si, presque comme des sanglots en fait, qui le secouent comme ça. Et donc je trouve vraiment cette balade vraiment magnifique.
Ouais, elle est vraiment très très fine. Alors c'est vrai que le thème de la chanson, il est à peu près clair. Par contre, d'une manière générale, je trouve que ces paroles sont pas évidentes à comprendre. Non. Je sais pas si tu t'es un peu plongé dans les textes.
Alors non, j'ai eu du mal parce que à l'époque où j'ai acheté l'album en 2000, les paroles sur internet, ça n'existait quasiment pas. Enfin, en tout cas, j'avais même pas internet. Oui. Donc. Et le livret du CD était écrit mais à la main quasiment. Et c'était totalement lisible, une écriture de médecin en fait.
D'accord,
j'ai beaucoup de respect pour les médecins.
Bien entendu.
Mais voilà.
Beaucoup de médecins nous écoutent d'ailleurs.
Voilà. Et donc, j'ai jamais pu vraiment me plonger dans les paroles. Et quand j'ai commencé à vouloir reprendre pour moi des chansons de l'album comme ça à jouer, il a bien fallu que je trouve les paroles. Et j'avoue que je comprends pas non plus tout ce qu'il raconte. Voilà. C'est même des chansons plus anciennes comme Valse Number 2, ce genre de trucs, je comprends pas trop ce qu'il raconte, mais je trouve ça magnifique.
Ouais, mais c'est peut-être, on a peut-être pas forcément besoin de comprendre pour apprécier une œuvre d'art d'une manière générale, je pense. Ouais. Alors, en tant que mélomane, et puis peut-être après, on va en parler après, toi qui es musicien qui reprend des chansons, le fait de s'intéresser au texte, c'est important pour toi ou pas forcément? Et est-ce que tu fais une différence entre les chansons anglaises et françaises? Enfin, anglophones et francophones?
Très bonne question. Non. Moi, j'avoue que, enfin, si. Mais après coup, en fait. Le texte m'intéresse après coup.
Ah oui.
Je pense que, mais comme beaucoup de monde, en fait, je pense qu'on accroche d'abord une chanson grâce à la musique qui nous accroche, la mélodie, les arrangements. Et que si on l'écoute plusieurs fois parce qu'on l'aime, c'est là qu'on commence à s'intéresser au texte. C'est comme ça que je vois un peu les choses.
Y compris les francophones.
Y compris les francophones, ouais.
D'accord.
Pense. Okay. Ah non, pas forcément, quand tu le dis, finalement. Non, c'est vrai que les francophones, y a une tradition un peu de chansons à texte en France.
Oui.
C'est vrai que le texte est quand même vachement plus mis en avant, oui, c'est vrai. En tout cas, oui, au moins pour les anglophones, c'est parce qu'on n'est pas très fort en anglais non plus, je pense. Mais d'abord la musique, clairement.
C'est vrai qu'après, le fait, comme tu dis, de quand on est musicien puis qu'on reprend les chansons, on est amené à se plonger dans le texte, mais on n'a souvent pas besoin de comprendre le texte. Moi, ça m'est arrivé de me faire la réflexion sur certaines chansons que je reprends, mais en fait, je fais du, comment dire, du mot à mot. Enfin, des fois, je me suis jamais posé la question du sens de la chanson, alors je la chantais depuis 10-15 ans, quoi.
Oui, c'est vrai que ça m'est arrivé de comprendre d'un coup le sens d'une chanson que je chante depuis 20 ans et je m'étais jamais posé la question et d'un coup, ah, mais ça parle de ça, en fait. Ah oui, d'accord.
Ouais. Et des fois, il y a de belles découvertes.
Carrément.
Troisième chanson, un petit peu dans cette veine acoustique. Alors, cette fois-ci, qui va faire une transition vers d'autres styles musicaux, du moins d'autres styles d'arrangement qu'on retrouve sur l'album de Elliott Smith. La chanson qui suit dans l'album s'appelle Everything Means Nothing to Me. Everything means nothing to me. Alors, le mot-clé de la chanson, le piano, n'est-ce pas?
Ah ben oui, la partie piano est sublime. Enfin, franchement, je trouve Et puis en fait, elle suit la mélodie de la voix. Je crois que la main droite du piano suit exactement la mélodie de la voix, qui elle-même est complètement dingue, en fait. Cette mélodie, c'est de la dentelle. C'est vraiment incroyable. C'est la plus tarabiscotée de l'album, je pense. La mélodie, ça monte, ça descend tout en demi-ton, en subtilité. Enfin, je pense que c'est ma préférée de l'album, hein, clairement. Et puis aussi parce que à la fin aussi de la chanson, ça part en boucle et ça explose un peu en boucle. Et on part d'un truc de dentelle pour exploser à la fin en feu d'artifice. Enfin, ce morceau est complètement dingue, je trouve.
Ouais, c'est vrai. On se demande comment une mélodie comme ça peut sortir d'un cerveau, Et puis le terme de dentelle, c'est vraiment une des meilleures images qu'on puisse trouver pour cette chanson, c'est vraiment clair. Là, j'en passe qu'un tout petit extrait parce que je suis un peu soumis à une réglementation qui m'impose de pas mettre des extraits trop longs pour pas payer de droits d'auteur, mais vraiment, j'encourage tous les gens qui écouteront ce podcast à écouter cette chanson en entier pour voir toute la progression et puis l'apprécier dans son entièreté. Ouais. Je trouve avec cette chanson, il introduit un élément que tu as souligné, qui sont les harmonies vocales. Là, on commence à en entendre un petit peu plus, notamment sur ce qui sert de refrain. Et donc, pour Elliott Smith, c'est vraiment quelque chose de très bien fait à chaque fois.
Oui. Ah oui, les harmonies vocales, c'est super travaillé, ça va avec les mélodies, en fait. C'est vraiment.
C'est quelque chose que tu aimes, toi, les harmonies vocales, en général, il me semble. T'es assez sensible à ça. T'évoquais Simon & Garfunkel tout à l'heure et.
Oui, alors, ça dépend ce qu'on appelle harmonie vocale, parce qu'il y a. Est-ce que tu parles des chœurs ou.
Je pense au fait d'intégrer des voix mélangées dans le but d'enrichir un arrangement. Alors, je pensais au hasard, des groupes comme Eagles, Queen. Les Beatles aussi, les Beach Boys, Crosby, Stills, Nash & Young, des trucs comme ça, qui sont connus pour cet aspect des arrangements.
Oui, c'est vrai. Alors, entremêler des voix, je trouve ça l'effet est toujours assez réussi. Après, je suis moins fan quand il y a des gros chœurs un peu lourdingues dans certains morceaux.
Ouais, d'accord.
Je vais me faire des ennemis, mais par exemple, chez Queen, certains chœurs, je suis pas très fan, mais c'est une question de goût, voilà.
Ouais.
Mais après, des trucs entremêlés, voilà, comme ici, je suis assez client,
C'est vrai que l'avantage d'Elliott Smith, c'est que, on va en reparler dans une autre chanson tout à l'heure, que je voulais pointer ça, c'est que il en met pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il met vraiment, je trouve, comme une petite épice à la fin d'une recette de cuisine. Au moment où il y a ça pop là, et du coup, ça met en valeur vraiment l'instant et ça met du relief par rapport à tout le moment où il n'y en a pas, où il n'y en a pas forcément besoin.
C'est vrai.
Il a un talent d'arrangement pour ça, je trouve.
C'est vrai.
Ok, on va passer à la suivante. Tu m'avais proposé Stupidity Tries.
Oui.
is free. Everything but you and me. This pain together tries. Stability tries.
Stupidity Tries, tu pourrais nous dire comme ça la raison de ce choix ?
Eh ben, c'est peut-être la chanson de l'album qui se rapproche plus du style un peu pop-rock que j'écoutais beaucoup à l'époque, et que j'écoute toujours d'ailleurs, mais que j'apprécie. Donc voilà, guitare, batterie, voilà, très pop-rock, mais toujours avec ses harmonies, ses accords en dessous, complexes, assez inattendus, des changements de tonalité... assez spéciaux, mais qui rendent super bien, je trouve. Et puis encore, il y a une sorte de refrain qui revient, mais avec les paroles différentes à chaque fois, donc pas vraiment un refrain, comme souvent chez Elliot Smith. Et puis la fin qui est une sorte de coda finale très puissante en boucle, avec des cordes qui arrivent, je crois, à la fin, qui ajoutent une ampleur, assez dingue.
Moi, je lui trouve, c'est la première chanson de l'album où on ressent vraiment son influence des Beatles. Je sais pas si tu l'entends.
Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Maintenant que
au début,
tu dis ça,
surtout le couplet.
Son of Sam. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça fait très. Oui, ça fait très McCartney, oui, carrément.
Il était très fan des Beatles et je trouve là vraiment ça s'entend. Alors même au-delà des Beatles, je trouve qu'on est un peu dans l'ambiance pop des années 60 anglaise, quoi, aussi avec les Kings, avec.
Ouais, bah ça, je connais
moins. C'est une chanson plus anglaise qu'américaine.
Ouais, ah oui, peut-être. Bah, ça, je connais moins.
Et je trouve qu'on est vraiment dans cette ambiance Swinging London. Alors toi, je sais que tu aimes beaucoup les Beatles aussi et McCartney. T'es allé voir en concert, il me semble.
Ouais. Ah oui, plusieurs fois.
Ouais, plusieurs fois. C'était comment ?
Oh, ben McCartney, c'est un dieu pour moi. C'est mon dieu. Enfin, parmi d'autres, mais ouais, McCartney, c'est un pur génie pour moi de... Tout ce qu'il a fait dans les Beatles, en collaboration avec Lennon aussi, c'était incroyable. Et même en solo, ensuite, il a fait des trucs dingues, des mélodies, des harmonies qu'on retrouve donc chez Smith. Il a réussi toujours à se renouveler, mais en 50 ans, il se renouvelait toujours. Et je trouvais ça incroyable.
Mmh. Ouais, donc tu l'as suivi... j'allais dire tu l'as suivi toute sa vie, mais il est pas mort, lui.
Non, non. Non, et d'ailleurs, il a encore sorti un album, je sais plus quand c'était, il y a quelques mois, un ou deux ans. Et encore.
Ah oui, après le Covid, je m'en souviens.
Voilà, avec des choses encore nouvelles. Enfin, oui, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Et je suis pas le seul, je crois.
Ouais, il paraît. C'est ce qu'on raconte. Du coup, quand tu entends un artiste comme Elliot Smith avec des emprunts comme ça autour des Beatles et de McCartney, alors déjà, est-ce que tu les entends en général et est-ce que c'est plutôt quelque chose qui t'embête ou c'est
plutôt
un clin d'œil
que tu apprécies ? Ah non, mais tu vois là, avant que tu en parles, ça m'a jamais sauté aux yeux l'influence des Beatles sur Elliot Smith, mais parce que je pense que l'influence des Beatles et de McCartney est tellement énorme sur des milliers de musiciens.
Oui.
Que enfin il a un peu révolutionné la musique et donc j'avoue qu'elle est partout, enfin elle est dans beaucoup d'artistes, mais là j'avoue que ça m'a pas sauté aux yeux et maintenant que t'en parles c'est vrai, clairement il y a un lien.
C'est peut-être un peu biaisé de ma part parce que j'ai lu la bio d'Eliot Smith là sur internet, j'ai lu assez vite qu'il était un grand fan des Beatles, donc j'ai peut-être eu une oreille qui a cherché l'empreinte des Beatles. Il y a peut-être un truc comme ça.
Ouais. Et puis alors ça me gêne absolument pas en tout cas. Au contraire.
Surtout que lui, je trouve qu'il prend un peu des Beatles et puis il l'emmène un peu plus loin où il fait un pas de côté ou assez vite notamment sur le refrain là où vraiment il fait un truc à lui et il arrive clairement à prendre, s'en détacher. Alors, toi, on parlait dans l'épisode précédent avec Ludo, là, quand on parlait de Queen, on parlait de Muse qui fait des emprunts à Queen qui sont vraiment plus qu'évidents. Là, ça peut, pour moi, c'est un peu gênant, tu vois. Alors que dans le cas d'Eliot Smith, je trouve que c'est quand même beaucoup plus subtil.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, c'est vrai. Il emprunte de Queen. Par Muse est effectivement moins subtil que Yacht Smith pour McCartney, oui, c'est clair.
Ouais. Et ben on va passer à la chanson suivante qui s'appelle Happiness. Happiness de Elliott Smith sur l'album Figure 8. Bon, je suis sûr que tu vas me parler de mélodie et,
bah ouais,
et d'arrangements vocaux avec d'harmonie.
Bah, donc c'est cette chanson que j'ai découverte en premier par les Unrock, donc dans la compil des Unrock.
Okay.
Donc c'est ma porte d'entrée vers Elliott Smith. Et ouais, bah, dès l'intro, un arrangement un peu original avec ces sortes de, bah, il utilise les tomes de la batterie seulement et avec un orgue aussi, je crois. Et puis, évidemment, des accords inattendus à chaque seconde. Et puis, et un groove aussi. Je trouve qu'il y a un groove dans cette chanson, dans la mélodie, dans un groove qui fonctionne super bien.
Ouais, il y a un petit côté soul, ouais. Exactement, ouais. Ouais, il y a ce, il faut vraiment l'écouter jusqu'au bout parce que le final est vraiment chouette, là, avec les, là, il utilise vraiment des chœurs.
Ouais.
Vraiment,
c'est vrai.
De manière, là, pour le coup, il y va, quoi. Autant d'autres moments, il y allait, de manière un peu subtile, autant là il en fait beaucoup et c'est vraiment très réussi.
Ouais.
Et puis il y a, ouais, comme tu dis, ce riff. Alors moi ce que j'aime bien, il utilise un élément d'arrangement qu'on entend parfois, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ne font que descendre et d'autres qui ne font que monter, et ça fait un espèce d'ensemble qui s'entrecroise, qui, ça fait comme une espèce de tresse sonore qui est,
oui c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai,
quand c'est utilisé ça, c'est, et que c'est bien fait, ça a toujours un effet qui est vraiment chouette. Ouais,
puis avec une ligne de basse vachement, enfin très recherché aussi, un peu walking bass, je sais pas si on peut dire ça, mais
ouais, très joli. Ouais il me fait un petit peu penser, alors pas tellement au niveau du style musical, mais au niveau du type d'artiste et au niveau de ce qu'il a dégagé par la suite, à Nick Drake. Je sais pas si tu connais un petit peu.
J'ai un album de Nick Drake, oui, que j'avais, parce que justement j'avais dû lire dans un article que ça s'apparentait un peu, Elliott Smith, Nick Drake, donc j'ai foncé sur Nick Drake.
Voilà. Et ouais, donc le même genre d'artiste maudit, qui était assez novateur sur plein de choses, qui était aussi très mal dans sa peau. Tu aimes bien aussi ?
Oui, l'album que j'ai écouté, j'aime assez, un peu répétitif, cela dit. Qui je suis pour critiquer ça ?
C'est quand même, t'es un auditeur, hein, t'as le droit.
Oui, mais bon, très acoustique aussi, et des plus avec... Il utilise pas mal de violoncelle, je crois, Nick Drake. Guitare, violoncelle, souvent. Et ouais, très joli, très triste. Mais très joli.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai qu'Elliott Smith, j'ai pas vraiment approfondi ses textes, hein, mais de ce que j'en ai lu, c'est souvent des textes assez, assez noirs, c'est assez sombre. Pourtant, les musiques elles-mêmes sont pas spécialement.
Non, c'est vrai.
Dans cette veine-là, je trouve. Hein, c'est si on connaît pas la teneur des textes, on peut pas trop deviner ça.
Mais c'est peut-être ce qui fait tout le charme et ce qui apporte l'émotion, c'est qu'on sent dans sa voix que c'est quand même quelqu'un de super fragile et qui transmet plein d'émotions. Mais en même temps, les musiques sont ultra recherchées et assez, pas si tristes que ça, effectivement.
Alors, Elliott Smith est mort, on l'a dit, en 2003. Donc, mathématiquement, si je fais ma soustraction, tu aurais pu le voir en concert. Est-ce que ça a été le cas ?
Mais oui, je l'ai vu en concert.
Mais oui, j'espérais que tu me répondes ça.
Mais oui,
c'était où et quand, comment ?
C'était incroyable. Je veux tout savoir. Eh ben, quand j'étais à Toulouse, donc pour les études, je venais d'acheter l'album qui est sorti en mai-juin, je crois, 2000. Et voilà, en juin, je regarde sur le programme du Bikini, la célèbre salle toulousaine mythique. Et donc voilà, Elliott Smith en concert. Je suis allé, c'est une soirée inoubliable. Inoubliable. On n'était pas beaucoup de monde, on devait être 200 personnes.
Ouais, c'est une petite salle déjà.
Mais c'était vraiment pas rempli. C'était un soir de finale ou de demi-finale de l'Euro de foot. Du coup, ils avaient mis le match sur les grands écrans et tout ça. Et il a commencé à jouer qu'à 22h30, un truc comme ça. Tout ça fait que c'était une ambiance assez dingue. Et j'avais lu beaucoup que dans certains concerts, sur la fin de sa vie, ouais, les dernières années, il ressemblait plus trop à rien sur scène. Enfin, c'était compliqué. Et là, franchement, il était vraiment de bonne humeur. Il était bien dedans. Le concert était fantastique.
Il était tout seul ou il y avait
Non, il y avait un groupe. Ouais, il devait avoir, je sais plus, 4-5 musiciens. Et d'ailleurs, en recherchant pour préparer ce podcast, je me dis, mais quand c'était que j'ai vu en concert, j'ai recherché sur Google et je suis retombé sur un enregistrement audio d'un spectateur qui avait enregistré tout le concert. Et ça m'a fait un effet incroyable de retomber sur ce concert en audio alors que j'avais qu'un souvenir de 23 ans, du coup. Et réécouter ça en audio, c'était incroyable.
Alors c'est vrai qu'il a ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a tu disais là il était vraiment très très en forme sur ce soir-là. À partir des années, dans ce que j'ai lu, à partir des années 2000, il a enchaîné les cures de désintox et puis où là ça allait bien pendant quelques mois et puis après il replongeait. Donc suivant à quelle période on l'a vu sur les trois dernières années de sa vie, on a pu assister à des concerts totalement différents. Sur YouTube on trouve des choses qui sont assez malaisantes, ouais, où vraiment là on le sent qu'il est pas bien, mais alors on sent par contre un public derrière lui et c'est vraiment on ressent beaucoup d'émotions, ouais. Il avait vraiment une fanbase qui était très derrière lui, hein, vraiment,
et qui s'est encore agrandi après sa mort, évidemment, comme souvent malheureusement.
Dont moi depuis 15 jours. Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que c'est cet abonnement aux Inrock. Moi, ça m'intéresse parce que pendant très longtemps, tu disais, les Inrock donnaient régulièrement un CD pour découvrir de nouvelles musiques. Ils le font plus, je pense, maintenant.
Alors, si, je crois qu'ils le font toujours.
Si.
Alors, j'avoue que je suis plus abonné.
T'es encore abonné?
Depuis quelques mois, j'ai abandonné. Parce que, je trouve qu'ils ont un peu évolué d'une manière qui m'intéressait moins. Mais ils font toujours tous les mois un CD, même s'ils sont posés la question, je pense, avec la dématérialisation maintenant, est-ce que ça vaut le coup encore un CD, mais en tout cas ils font toujours.
D'accord. Je trouve que c'est un procédé qui est vraiment génial parce que pendant des années, ce qu'ils ont pu faire découvrir à plein de gens, c'est vraiment chouette, hein, je trouve.
Ah bah oui, dans les années qu'on suivit, Elliott Smith a été le premier qui m'ont fait découvrir, mais ils m'ont fait découvrir encore des tas d'artistes que j'aurais jamais écouté, ça se trouve, sans eux. C'est sûr.
Ouais. Tu as dit tout à l'heure, il a été primé, ou au moins il est connu pour avoir composé une chanson pour la BO de Will Hunting.
Ouais.
Donc toi, je sais que tu es très cinéphile, hein, tu vas beaucoup au cinéma. Et je voulais savoir pour toi quelle place a la musique là dans les films. Est-ce que c'est quelque chose vraiment que tu écoutes de manière précise quand tu vas écouter un film? Est-ce que tu arrives à mettre ta partie mélomane de côté? Ou est-ce que vraiment ça, c'est quelque chose de très imbriqué et t'es vraiment attentif à ça?
Ouais, non, c'est plutôt imbriqué en fait. Quand je découvre un film, j'essaie juste de voir si ça me procure une quelconque émotion. Et si j'ai aimé le film, souvent, et si la musique est assez présente, oui, ça m'arrive de réécouter la musique et de l'apprécier à ce moment-là. Alors après, le cas de Elliott Smith pour Will Hunting, c'est plus une chanson de générique de fin, donc c'était pas vraiment la musique du film, la BO. Mais oui, je suis très fan de grandes musiques de films.
T'as des compositeurs que tu aimes bien régulièrement et qui sont connus pour ça?
Ah bah, le grand Ennio Morricone, forcément.
Ouais.
L'autre
dieu. Que t'as peut-être vu en concert, d'ailleurs.
Eh bien oui, aussi.
Eh ben oui.
Ah oui,
c'est des demi-questions. Hein.
Ah oui, il y a des grands moments en concert aussi. Ennio Morricone, qui est des musiques de films incroyables. D'ailleurs, un des trois que j'avais sélectionné pour ce podcast, c'était une BO d'Ennio Morricone. Et après, des plus contemporains comme certaines musiques de Hans Zimmer, par exemple. Je suis pas fan de tout ce qu'il a fait, mais ça, c'est beaucoup lié à la qualité des films, par contre. Par exemple, Interstellar de Nolan, qui est un film que j'adore, la musique d'Hans Zimmer là-dessus apporte quelque chose, une énorme plus-value.
Ok, très bien. On arrive maintenant à la dernière chanson que tu m'as proposée, qui arrive je crois que c'est la troisième chanson avant la fin de l'album, et elle s'appelle Better Be Quiet Now. If I didn't know the difference,
Living alone would probably be okay. It wouldn't be lonely. I got a long way to go. I'm getting further away. A lot of hours to occupy. It was easy when I didn't know you yet. Things I'd have to forget. But I better be quiet now. I'm tired of wasting my breath. Carrying on, getting upset.
Alors encore une fois, moi je trouve encore l'influence des Beatles très présente sur cette chanson. Là, je sais pas.
Oui, c'est vrai. Si et encore une fois, je m'en étais pas rendu compte, mais carrément.
Ouais. Ouais.
C'est vrai. Alors et puis là, c'est une balade totalement déchirante. Hein, encore plus. Ouais. Avec le recul de son suicide ou enfin de sa mort en tout cas. Enfin, là, de ce que je comprends des paroles qui sont peut-être un peu plus compréhensibles que les autres chansons, en gros, c'est ouais, quelqu'un qui est fatigué, qui veut juste s'arrêter, qu'on le laisse tranquille. Enfin, voilà. Et donc, c'est totalement déchirant comme balade. Et puis, c'est un rythme de valse aussi. Et il a fait beaucoup de valse, Elliott Smith. Donc, un rythme à trois temps.
Exact, oui. Oui.
Et il a fait des valses vraiment magnifiques, notamment dans ses précédents albums. Je pense à Between the Bars, je crois que c'était, oui, c'est une valse. Et Valse Number 2, évidemment. Ouais. Et à chaque fois, c'est superbe.
Ouais, il est très bon pour ça. Moi, je trouve c'est une chanson qui illustre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que donc c'est guitare-voix, et puis de temps en temps, il y a un petite mélodie en contrechant la guitare, de temps en temps une harmonisation vocale qui arrive vraiment comme une petite ponctuation là et qui vraiment met un relief dans l'arrangement qui est vraiment chouette. Ouais. On parlait d'arrangement tout à l'heure justement. Est-ce que toi tu es attentif à la subtilité des arrangements? J'imagine que oui, mais est-ce que
alors je
encore
pense,
que j'imagine mais... que oui, j'en sais rien.
Ben, un peu comme tout le monde, je pense, pas consciemment, quoi. C'est vraiment quand...
Ou pas dans un premier temps.
Voilà, pas dans un premier temps. C'est quand je commence vraiment à adorer une chanson et à l'écouter en boucle, forcément, ben, on écoute beaucoup plus de choses et on écoute les arrangements et tout ça, et ça me fait comprendre un peu pourquoi on aime encore plus cette chanson, parce qu'il y a des petits effets d'arrangement qu'on découvre, et dit, ah ben oui, c'est ça qui fait accrocher encore plus à une chanson. Mais dans un premier temps, non, clairement, moi, c'est juste ce que je ressens en écoutant une chanson la première fois. Et d'ailleurs, je pense que c'est la particularité des bons arrangements, c'est de pas vraiment qu'on les entende pas vraiment au départ, quoi, mais qui sont quand même efficaces.
Ouais, c'est comme je disais un peu dans l'intro, c'est il y a des morceaux des albums comme ça, on va pas percuter tout de suite, puis c'est à force de les écouter, on va vraiment s'intéresser, puis à un moment, un jour là, on se dit waouh, j'ai compris. Et comme tu dis, pour certains arrangements, ça fait pareil. Et notamment, je trouve que c'est quand on écoute avec un casque, un bon casque. De temps en temps, il y a des chansons qu'on écoute depuis plusieurs dizaines d'années, et puis boum, là, on entend un petit violon, une petite percu là qu'on n'avait jamais entendu et qui est vraiment chouette, ouais.
Ça, c'est vrai.
C'est toujours intéressant. Ouais.
Moi, j'écoute rarement avec. En fait, j'ai pas vraiment de matériel audio. Je suis pas vraiment un audiophile en fait. Donc, j'écoute beaucoup de MP3 dans la voiture, ce genre de trucs. Ouais. Donc, voilà. C'est pas. Mais voilà. Donc, c'est vrai que j'entends pas toutes les subtilités dont tu parles, je pense, dans la plupart des chansons. Mais j'aime quand même.
Et demande au Père Noël un bon casque, tu verras. Tu me remercieras.
Un casque dans la voiture, c'est pas possible.
Bah, il faut pas se faire gauler, quoi, c'est tout. Alors, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, tu es toi-même musicien, donc notamment pianiste, guitariste, un excellent chanteur.
Merci.
Tu joues en groupe avec notamment Shiva Moon. Est-ce que vous revenez pour le fait de la musique? Vous rejouez pour,
oui, le 21 juin.
Vous jouez, toi, t'habites. Parce que toi, tu as habité à Reims, donc tu avais fondé ce groupe.
Bah oui, avec Shiva Moon. Donc, maintenant, on est tous aux quatre coins de la France. Sur les cinq, il n'y en a plus qu'un qui habite à Reims. Donc,
d'accord.
Mais on prend un malin plaisir à se retrouver une fois par an à la fête de la musique au centre de Reims, donc Place d'Erlon, pour Voilà, pour s'amuser.
Bon, alors on enregistre cet épisode le 1er juin, donc voilà, j'ai 20 jours pour le monter.
Ah oui.
Qu'on
bah
puisse
oui.
entendre parler de votre prestation pour le 21 juin, qui est toujours très appréciée, j'en ai toujours plein de bons échos. Tu joues aussi dans, autour de Quimper tout seul, en piano-voix, guitare-voix, sous le pseudonyme de Noodles. Ouais. Et je sais que dans ton répertoire, tu as une quantité impressionnante de chansons, de mémoire plusieurs centaines, on approche peut-être le millier.
Au dernier décompte, j'étais un peu plus de 700, je crois.
Ouais, c'est ça.
Voilà,
voilà.
C'est ça, ouais.
Tu m'as dit que tu as déjà repris du Elliott Smith pour toi. Tu en joues en concert de temps en temps?
Bah alors, j'ai dû en jouer un petit peu quand je faisais à Reims tout seul. Mais non, je crois pas que j'en ai joué, parce que j'avoue que en concert, je fais des concerts dans les bars, les restos et tout ça, en terrasse.
Ouais.
J'avoue que je préfère jouer des morceaux que les gens connaissent, qui sont contents d'entendre, peut-être d'une manière différente ou d'une manière plus proche du disque, suivant les morceaux. J'avoue que j'aime bien quand les gens reconnaissent la chanson.
D'accord.
Et donc,
ah ouais.
je suis sûr que si je joue un Elliott Smith, bon, il y a très peu de chances que... Alors, ça arrivera, hein, qu'il y en a qui connaissent, mais il y a très peu de chances que ça accroche comme ça... Donc bon, non, je joue surtout pour moi, Elliott Smith.
Je sais que t'as une formule que je trouve intéressante, c'est que de temps en temps, tu fais une partie du set où tu prévois ta liste, et puis pour une deuxième partie où tu proposes une liste au public et eux, ils vont piocher dedans, t'en as jamais mis du Elliott Smith.
Non, ouais, c'est vrai que j'aime bien faire ça, et je me rends compte que c'est souvent les mêmes chansons qui reviennent, pas tout le temps. Des fois, il y a des surprises, mais c'est souvent les mêmes chansons qui reviennent, et clairement, Elliott Smith, on me l'a jamais demandé.
Ouais, j'aimerais bien t'entendre reprendre du Elliott Smith une fois, parce que avec Delphine, ma compagne, là, on se faisait la réflexion en écoutant l'album que vous avez des timbres de voix qui par moments sont assez similaires et je trouve que ça, je suis sûr que ça te va très bien. Alors même si toi t'arrives à adopter un registre plus puissant quand il le faut, mais quand tu fais des balades, des choses comme ça, vous avez il y a une similitude, je trouve, qui est remarquable.
Peut-être.
Ouais.
Je ne sais pas.
On peut. Ouais, mais je te le dis. Je prends le risque de dénoncer cela.
C'est noté.
Et alors, d'une manière générale, tu écoutes pas mal de musique, notamment, puis voilà, je pense des nouveautés régulièrement. Dès que tu entends une chanson qui te plaît, est-ce que d'emblée ça te donne envie de la reprendre?
Oui, plutôt. Si je flash sur une chanson, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des chansons que j'aime, parfois c'est pas flashé tout de suite, mais ça arrive assez rarement, mais ça arrive que, première écoute d'une chanson, j'adore, quoi. Par exemple, je me souviens quand j'ai entendu pour la première fois Viva la Vida de Coldplay, cette chanson, tout de suite, j'ai entendu, je dis, mais c'est génial. Et donc, j'essaie de la reprendre. Alors parfois, ça rend rien, parce que tout seul, c'est pas toujours facile de tout reprendre. Donc je laisse tomber, mais j'essaie souvent,
Ok, intéressant. Avant de conclure l'épisode, on va juste passer un extrait d'une chanson, je crois que c'est la troisième, c'est ça, c'est la troisième de l'album, qui est ma chanson préférée, donc je voulais juste en parler. J'adore cette chanson, moi, parce que je trouve qu'il y a un groove qui est incroyable. Il y a un arrangement qui est d'une stabilité, on sait où on va, ça... quelque chose qui prend son temps et tout, et puis le mieux, c'est plutôt que d'en parler, c'est d'en passer un petit extrait. Alors, Junk Bond Trader, j'adore ce coup de cloche tubulaire qui arrive au début de chaque cycle. Je trouve ça.
Ouais, bah, moi aussi, en fait. J'avais hésité à la mettre dans la liste, en fait, et il a fallu que j'en supprime. Mais clairement, j'adore aussi. Le groove, j'adore le groove de cette chanson. Et l'intro, pendant toute la chanson, il y a la partie piano aussi qui a un groove énorme, je trouve.
Je sais pas ce que c'est comme son, ça ressemble à un...
Bah souvent, le piano chez Yosmith fait un peu piano bastringue, de saloon, un peu légèrement désaccordé, je pense.
Ouais.
Souvent, ce son-là de piano chez Yosmith, sauf dans celle qu'on a entendue tout à l'heure, « Everything Means Nothing to Me », où c'est un piano plus clair.
Oui, oui. Il y a des chansons sur l'album que tu n'aimes pas ?
Des chansons sur l'album... Alors attends, je regarde la liste.
Je pose la question parce que moi, je me suis fait une espèce de panthéon d'albums, une espèce d'album zéro déchet, toi, où vraiment je jette pas 10 secondes. Voilà, je sais pas, je mets OK Computer de Radiohead ou Wish You Were Here de Pink Floyd, tu vois. Et est-ce que toi, c'est un album où tu n'enlèves rien?
Bah écoute, ouais, je regarde la liste des titres. Il y a aucune chanson que je n'aime pas. Après, il y a des chansons que j'aime un peu moins que d'autres, forcément. Notamment la dernière, Can't Make a Sound. Enfin, si, elle est quand même bien, mais. Mais je l'aime moins. Et puis la toute dernière piste qui s'appelle juste Bye,
qui est instrumental.
Qui est d'ailleurs assez frappant, quelques années avant sa mort. Bon, là, c'est plus une sorte de piste, je sais pas, une piste fantôme, on peut appeler ça, où on entend un piano vaporeux qui s'en va. Bon, donc là, évidemment, je vois pas un intérêt énorme, mais bon, c'est pour clore l'album.
Ok. Eh bien, Julien, un très, très grand merci à toi pour cette découverte, enfin, cette redécouverte, du coup.
Ben, merci à toi.
Ça m'a permis d'y voir... là, j'y vois vraiment plus clair dans un artiste... Enfin, autour d'un artiste que je juge incontournable. Voilà, j'ai parcouru l'ensemble de ses albums, là, en 15 jours, que je me suis écouté en boucle, et c'était vraiment génial. Noodles, autour de Quimper, t'as des dates?
Ben non, pas pour...
Il se gratte la tête.
Pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant, pas de date confirmée en tout cas.
Ok, ça marche. Eh ben, j'espère que ça arrivera très rapidement. Okay. Et merci beaucoup.
Merci à toi.
Eh ben, je t'en prie. Chères auditrices et auditeurs, on espère vous avoir fait découvrir une musique que vous apprécierez. Bien entendu, si vous avez des commentaires, des questions ou des remarques, vous pouvez me contacter par mail à eric.blanc@lilo.org. Je ne vous refais pas le laïus habituel sur le partage, les likes et tout le toutim. Vous êtes grand, vous savez ce que vous avez à faire. Je tâcherai de préparer un dernier épisode avant l'été pour un retour plus que probable en septembre. Et d'ici là, bonne musique à tout le monde. Ciao !